Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Bienvenue Nicolas Pazetti au micro de Trouver sa voie.
Merci, merci pour l'invitation Alban.
Aujourd'hui, on va parler de mobilité interne, de comment gérer une carrière au sein d'une même boîte, d'une même entité. La raison est simple, c'est que souvent, on a tendance à vouloir tout remettre en question quand on veut, quand on se pose des questions pro, quand on est arrivé parfois dans une forme d'impasse. C'est parfois plus facile de tout plaquer et d'avoir l'impression que de partir de zéro, ce sera mieux. Et moi, je crois que c'est pas idiot et c'est même plus malin de commencer par réfléchir à ce qu'on a déjà à portée de main. Et c'était d'ailleurs un peu la thématique de la semaine dernière avec Marie qui nous disait garde un pied dans ton cerceau puis mets-en un dans un autre cerceau plutôt que de faire un grand saut dans le vide. Ça va être notre sujet d'aujourd'hui. Et Nicolas Pazetti est expert de ce sujet-là, entre autres. Il est influenceur RH sur LinkedIn, sur pas mal de plateformes. Son nom de scène, c'est le barbu qui parle RH. On s'est rencontré grâce à Gladys Ramette, qui est passée au micro de ce podcast il y a quelques mois. Merci Gladys, c'était une belle rencontre. Et peut-être pour finir cette intro, merci comme d'habitude de votre soutien sur le podcast. Merci pour tous vos commentaires sur Spotify. Il y a un feature qui va bientôt arriver qui va être trop cool. C'est qu'on va enfin pouvoir échanger. Je vais pouvoir vous répondre. Et parfois, vous posez des questions. Il n'y a pas de bouton pour vous répondre. Donc, c'est difficile d'échanger avec vous, la communauté. Et j'ai hâte de pouvoir le faire parce que c'est très frustrant de ne pas pouvoir vous répondre et de ne pas pouvoir être dans un échange avec vous pour améliorer le podcast. Voilà, c'est tout pour l'intro. Peut-être un tout dernier point, c'est sur le tuto du jour qui sera enregistré cet après-midi. Et ce sera un petit hack pour trouver du temps. Comment est-ce qu'on peut trouver du temps quand on n'a pas de temps et qu'on n'aime pas ce qu'on fait, quand on n'est plus à l'aise dans son job et qu'on a besoin d'avancer et qu'on a juste zéro minute dispo dans sa semaine, mais qu'il faut quand même avancer. Voilà, je partagerai un petit hack qui me plaît, qui permet de libérer du temps de façon assez naturelle. Mais voilà, j'en ai déjà trop dit. Nicolas, je te laisse le micro. Bienvenue encore sur Trouver sa voie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Oui, bien sûr. Merci Alban pour l'invitation et merci Gladys pour la mise en relation, effectivement. C'est trop cool. Moi, en quelques mots, je suis Nicolas. Ça fait presque une vingtaine d'années que je travaille dans le monde des RH. J'ai commencé dans le monde des médias et ensuite j'ai monté mon agence de communication RH qui s'appelle E-Team, qui a une douzaine d'années. On travaille, on accompagne les entreprises sur tout ce qui est au départ méthodologie de recrutement, après marketing RH, après grosse marketing RH, communication, marque employeur, création de contenu, ainsi de suite. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait chez E-Team depuis une douzaine d'années. Et depuis un peu moins de deux ans maintenant, je pilote une startup spécialisée dans l'intelligence artificielle, qui développe un produit qui s'appelle Hawk, qui est un outil qui accompagne les entreprises et les RH dans tout ce qui est travail de la mobilité interne. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Développement des compétences des collaborateurs et stratégique workforce planning, qui inclut un peu tout ça au sein de la fameuse GE2P, qui est la nouvelle GPE aussi aujourd'hui, qui contribue au développement des collaborateurs au sein du développement de l'entreprise. Vraiment, l'objectif pour moi profond à travers tout ça, c'est d'essayer de faire bouger un peu les choses, d'essayer de faire bouger les choses en termes de ressources humaines. Pourquoi? Parce que je reste persuadé que c'est le genre de choses qui va faire bouger la société dans sa globalité. Tu vois, le fait de faire travailler les sociétés sur plein d'aspects différents, ça peut faire bouger la société au global parce que les sociétés sont quand même un super bon levier pour faire avancer les choses. Et en partie, en grosse partie, dans le côté bien-être. Parce qu'on a l'impression que le bien-être, la QVT dans les entreprises, ça joue uniquement sur le côté entreprise, mais non, ça joue sur la globalité en fait de la société. Une personne qui se sent bien dans son job, généralement, elle se sent bien chez elle. De la même manière qu'une personne qu'on accompagne dans sa mobilité, qu'elle soit interne ou externe, c'est une personne qui est censée se sentir bien dans son job, donc qui est censée se sentir bien à côté. Donc il y a tout un pan d'information, d'éducation et de changement de paradigme qui vont être induits pour moi en partie par les sociétés, qui est assez important. Et c'est à ça qu'on essaie de contribuer très modestement, essayer de faire en sorte de...
Il y a du bruit, c'est ça?
C'est quoi le bruit?
Ah, donc. Ouais, j'ai un. Attends, je vais couper le micro. C'est bon, je te laisse continuer.
Non, mais c'était bien, mais j'avais l'impression d'être sur une piste de comment dire, de F1. Je te jure, à un instant, je fais truc de ouf.
Et, c'est bon, c'est réglé.
Et donc, je te disais, ouais, à notre modeste niveau, essayer de contribuer à ça pour essayer de faire avancer les choses. C'est un peu le mindset et c'est un peu la volonté. Et donc, c'est pour ça que je suis très content d'en parler aujourd'hui parce que plus on parlera de tous ces sujets, là, on parle de mobilité interne, mais on peut parler de, comment dire, de QVT, on peut parler de RSE, on peut parler d'inclusion, on peut parler de toutes ces choses-là. Plus on parlera de tous ces sujets, plus on fera se rendre compte aux gens concernés qu'il y a des choses à faire et on fera se rendre compte aux entreprises qu'il faut faire des choses. Donc voilà.
Mais on est un peu confrères d'ailleurs, hein, parce que tu travailles auprès des entreprises pour amener des modèles de gestion de carrière long terme, avec une sorte d'identité du collaborateur qui va et puis à mieux se connaître, ça va être quelque chose qui va le suivre et qui va pouvoir travailler au long cours si les souvenirs sont bons. C'est aussi quelque chose que je propose moi sous forme de one shot, de dire à des entreprises, confiez-moi une personne ou une équipe et je vais les aider à avoir une sorte de manuel d'utilisation de leur évolution pro en one shot. De choses assez complémentaires, ce qui fait que j'avais trouvé ça intéressant quand on avait discuté. Tu avais une vision, on est un peu hors sujet, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Tu avais une vision assez inspirante, je trouve, pour l'avenir là-dessus. Je sais pas si mes souvenirs sont bons, mais tu parlais au fond d'une sorte de dossier qui pourrait nous suivre toute notre carrière, un peu comme un passeport biométrique, mais de nos compétences, de nos appétences, de notre carrière. Et qu'à terme, tu vois le monde un peu comme ça, le monde du travail, en disant d'une boîte à l'autre, ça nous suit, quoi.
Ouais, en fait, tout le sujet pour moi, c'est le côté la pertinence de la donnée. En fait, tout le sujet pour nous, c'est la donnée. C'est le sujet au sein de Hawk, en fait, c'est d'utiliser la donnée pour mettre en avant le collaborateur dans son entièreté et s'enlever toute la partie biais, être vraiment le plus objectif possible, le plus factuel possible, et amener à la plus grande complémentarité. Parce qu'on sait que ce qui fait avancer les entreprises, c'est la complémentarité entre les éléments d'une équipe ou d'une boîte, c'est la première chose. Et donc, la complémentarité, elle fait quoi? Elle fait deux choses. Elle contribue non seulement à la productivité, au bon développement, mais elle contribue au bien-être des collaborateurs qui contribuent lui-même à la productivité et au développement. C'est-à-dire que pour pouvoir réussir à faire cette complémentarité, il faut qu'on puisse vraiment très bien connaître les collaboratrices et les collaborateurs et donc savoir tout ce qu'ils ont fait dans le passé, tout ce qu'ils font dans le présent, tout ce qu'ils représentent en tant que. Et c'est toujours assez compliqué parce que quand un collaborateur passe d'une boîte à une autre, en fait, on n'a qu'un petit pan de cette partie-là. Et il faut qu'on récupère tout au fil du temps ou il faut qu'on comprenne ce qu'il a fait, faire la prise de rêve, faire toutes ces choses-là. Enfin, c'est toujours très difficile, en fait. Que ce soit d'un point de vue soft skills, d'un point de vue environnemental global, attendu collab, c'est très compliqué, mais ça, de toute façon, c'est très compliqué à transmettre. Et d'un point de vue compétence et évolution, ça l'est aussi et ça devrait pas l'être. Et ce dont on avait parlé, c'était qu'on voit et ce qu'on imagine grâce à la blockchain, le fait que, en gros, demain, tu as un profil numérique qui soit intégré à la blockchain et du coup, qui s'enrichisse au fil du temps à travers les différentes expériences des collaboratrices et des collaborateurs et qui soit validé, en fait, par ces expériences. Et ça serait hyper intéressant parce que non seulement ça éviterait d'avoir une perte d'information, ça éviterait d'avoir de la suspicion, toutes ces choses-là et tout qui existent, des biais classiques en fait des RH, et ça permettrait surtout d'avoir une data assez exhaustive sur les collaboratrices et les collaborateurs, et donc de fait de pouvoir leur proposer des choses que eux-mêmes ou elles-mêmes n'auraient pas pensé avoir, parce que souvent en fait quand on se présente dans une entreprise ou quand on est dans une boîte, on va se présenter avec un angle d'approche, avec une vue, et on va mettre en avant toute cette vue-là, mais peut-être qu'on a pas toute la connaissance de ce que toute la boîte propose, et donc qu'on met pas en avant telle ou telle compétence, telle ou telle chose qui pourrait nous permettre un parcours de carrière un peu différencié. Et donc ça, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça donne une data exhaustive, et cette data exhaustive, si on a des outils pour pouvoir un petit peu l'extraire et l'analyser, eh ben on peut tout de suite faire des matchs de ouf, quoi. Tu vois, clairement, c'est vraiment des matchs de ouf. C'est un peu comme si, tu vois, on prend souvent le parallèle dans le recrutement entre les rencontres amoureuses et le recrutement, c'est un peu la même chose. C'est un peu comme si tu avais un Tinder de ouf qui prenait l'ensemble de la vie amoureuse et personnelle de la personne, tu vois, tout l'ensemble, en fait, tout son vécu, et qui puisse matcher avec ça. Mais généralement, en fait, ce que tu prends dans ce type d'appli, c'est que tu prends la vie à un instant T. La vie à un instant T, elle n'est pas représentative de l'entièreté de la personne. Donc, ton match, il va être à un instant T, mais c'est ce qui fera que ça ne fonctionnera pas forcément dans la durée. Si tu prenais toute la vie de la personne et que tu essayais de la faire matcher avec d'autres, là-bas, là, pour le coup, tu aurais une rencontre qui serait beaucoup plus solide et beaucoup plus durable, tu vois. C'est la même chose, en fait.
Ouais, mais c'est ce que moi,
on
je trouve ça... Ouais, pardon.
Je te disais, on l'espère, on l'imagine comme ça.
Et non, mais je trouve ça dire, super intéressant. Et sans parler de l'enfance qui pèse énormément après sur les choix qu'on va faire dans notre vie d'adulte, sans parler de... Et comme tu dis, il y a une sorte de plafond de verre. Hein. On part de nos compétences évidentes, on essaie de transposer ça. Et en fait, je pense qu'il y a il y a deux énormes freins côté collaborateur. Hein. On essaie de parler ici à des auditeurs qui sont plutôt collaborateurs que RH, même s'il y a les deux. Pour moi, il y a deux freins. Dont tu parles qui est énorme, hein. C'est je ne peux pas postuler à ce que je ne conçois pas. Et en fait, on conçoit pas grand chose. On est tout petit, on connaît rien. Et donc, du coup, on a un chakra c'est plus ouvert, un plafond de verre très bas, tous. C'est bien dommage. Et le deuxième point, tu l'as pas mentionné, mais en t'écoutant, ça me paraît important, c'est qu'on a tendance à gommer nos imperfections. Parce que dans un écosystème donné, on va avoir des qualités qui sont vues comme des défauts, genre de l'introversion ou de la sensibilité ou le fait d'être bordélique, mais du coup, très créatif. Et en fait, ça, dans une autre équipe, y en a qui vont chercher cette complémentarité et ce serait un truc de ouf de l'avoir. Et en fait, on va avoir tendance à cacher ça parce qu'on se dit, non, là où je suis, c'est mal vu, ça sert à rien, donc je cache. Et ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Ça permet d'être honnête, quoi.
Mais en fait, tu fais le parallèle. L'honnêteté, elle est nécessaire partout et tout le temps parce qu'elle est néfaste pour tout le monde, en fait. Tu sais, on a souvent tendance à dire aux entreprises, soyez honnête, parce que si vous n'êtes pas honnête dans votre communication et dans ce que vous proposez, vous allez avoir un turnover qui va augmenter. Ce qui est naturel, tu vois, t'as gavé d'entreprises qui essayent d'être attractives et qui, du coup, mettent en avant plein de choses. Elles sont pas forcément toujours malhonnêtes, mais elles enjolivent un petit peu la vérité et du coup, elles attirent comme ça les gens. Sauf que les gens, quand ils arrivent, ils se disent, c'est pas ça, c'est pas la réalité, tu vois. Donc, ça marche pas. Donc, non seulement ça sert pas pour les candidats, mais ça sert pas pour les collaborateurs parce que les collaborateurs qui sont à l'intérieur, qui voient l'entreprise communiquer sur des sujets d'une manière un petit peu enjolivée, tu vois, ça fonctionne pas. C'est exactement la même chose du côté candidat. Le problème, c'est que si jamais tu es malhonnête, entre guillemets, ou que tu enjolives certaines choses, mais tu vas te retrouver dans un écosystème qui, in fine, va pas te correspondre. Donc, c'est-à-dire que pour toi et pour l'entreprise, c'est néfaste, comme du côté de l'entreprise, pour le candidat et pour l'entreprise, c'est néfaste, tu vois. Donc, il faut absolument éviter tout ça. Il y a, encore une fois, refais le parallèle. Et franchement, côté RH et côté entreprise, il y a vraiment énormément de parallèles sur les relations humaines et sur les relations amoureuses. C'est réellement ça. Si jamais tu mens à ta partenaire quand tu la rencontres pour la première fois, il y a un moment donné, ça va clasher, forcément. Ça clashera peut-être pas au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça clashera peut-être au bout de 2 ans, mais ça clashera. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Sauf si, entre guillemets, tu enjolives quelque chose que tu sais qui est en train d'évoluer chez toi pour pouvoir dire, bon, écoute, voilà, je suis n'importe quoi. Tu dis à quelqu'un, mais écoute, je suis quelqu'un de ponctuel alors que c'est pas le cas, mais que tu sais que tu es en train de faire un travail sur toi-même pour pouvoir le devenir, tu vois. C'est factuel, tu sais que tu vas potentiellement y arriver parce que tu vas faire des efforts. Donc, ok, tu peux très bien l'enjoliver. Mais si tu es quelqu'un qui foncièrement, en fait, n'a aucune conscience du côté temps et pour lequel ton esprit n'est pas conçu comme ça, parce que c'est une conception de l'esprit, hein. Ton esprit n'est pas conçu comme ça. C'est très bien que tu vas renfrogner dans un premier temps ton être, ton toi profond, et tu ne pourras pas le faire à long terme. Donc, c'est-à-dire que tu reviendras à un moment donné où ça marchera pas. Et si tu arrives dans une entreprise qui est calée en mode, comment dire, train allemand, tu vois, ça peut fonctionner, quoi. Ça marchera pas.
Ouais, c'est vraiment une vision que je trouve passionnante. C'est pas l'angle qu'on a choisi pour aujourd'hui, mais je voulais en parler parce que je te rejoins dans cette vision. Et si tu crées un jour une API, je viendrai déverser mes datas de ce que je fais moi avec les entreprises dans Hawk parce que je trouve ça ouf.
Avec plaisir.
Notre sujet aujourd'hui, c'était la mobilité interne, c'est de s'appuyer sur ton expérience de la mobilité vue par l'entreprise. C'est-à-dire, toi, tu fais du conseil aux entreprises. Tu as une expérience auprès des RH. Donc, ton top 5, il est surtout sur comment des RH peuvent faire en sorte que les mobilités soient effectives, efficaces et tout dans leur boîte. Et notre petit tour de passe-passe aujourd'hui, c'est d'essayer de transposer ça sur un collaborateur, une collaboratrice qui se dit comment je peux m'appliquer des bonnes recettes B2B à moi qui suis un particulier, un pro, quoi. Enfin, un travailleur. Par où tu aurais envie de démarrer sur ces conseils de mobilité?
Moi, on a déterminé à peu près 5 points, tu vois, pour améliorer la mobilité interne ou pour travailler la mobilité interne d'une entreprise. Chaque point est transposable, en fait, entreprise collaborateur. On l'a vu quand on a parlé de marque employeur ou quoi. De toute façon, quoi qu'il se passe, l'entreprise et le collaborateur, c'est la même chose. C'est D'ailleurs, c'est tout le problème, en gros, aujourd'hui, dans le monde du travail et dans le monde au global, c'est un problème de communication. Les entreprises, les candidats et les entreprises et les collaborateurs ont le même objectif. C'est juste que la perception pour y arriver, en fait, elle n'est pas la même. Donc, c'est principalement un problème de communication. Donc, aujourd'hui, quand on va parler des différents pans pour travailler la mobilité interne, on va parler d'un, l'angle d'approche peut être différent, mais la finalité est la même. Donc, okay. Si tu prends les cinq, je t'ai répertorié cinq points. Le premier, c'est pour moi, une entreprise pour travailler sa mobilité interne, elle doit avoir une bonne politique RH. C'est un truc de base. C'est-à-dire que ce qu'on appelle par politique RH, c'est une bonne considération de ses collaborateurs pour pouvoir leur apporter un environnement global qui soit satisfaisant. On parle d'un point de vue salarial, d'un point de vue QVT, d'un point de vue sens ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est important. Et du point de vue collaborateur, c'est exactement pareil. Pourquoi penser mobilité? Pourquoi penser même intégration? Si tu parles d'une entreprise qui ne correspond pas, en fait, à ta politique ou à ton mindset, à ton culture fit, à ton ADN, ça ne pourra pas marcher. Clairement, ça ne pourra pas marcher. Donc, aussi bien les entreprises ne peuvent pas travailler la mobilité interne si elles n'ont pas assis cette politique globale et cet ADN, cette culture fit et ainsi de suite, aussi bien le candidat ne pourra pas se retrouver dans une entreprise qui ne le fait pas, donc n'aura aucun intérêt d'évoluer. Tu vois. Donc, ouais. Les chemins sont complètement croisés à ce niveau-là. Tu vois. Mais c'est la base. Et après, de ça, il faut aussi bien comprendre que ce soit d'un côté ou de l'autre, qu'il y a de tout pour tout le monde. Exactement de la même manière, si tu reviens sur les rencontres amoureuses, il y a de tout pour tout le monde. Les entreprises qui cherchent à tout prix à séduire tout le monde, c'est une énorme erreur. Parce qu'elles vont attirer des gens sur des aspects qui ne seront pas durables. Donc forcément, la culture fit, à un moment donné, va s'effriter. Et de la même manière, les candidats qui veulent absolument postuler à tout un tas d'entreprises, c'est une grossière erreur. Parce que ça veut dire qu'il y a un moment donné où ça cassera, tu vois. Alors oui, c'est compliqué. Je suis complètement d'accord. Il y a des gens qui sont, à un moment donné, tu vois, faut pas oublier qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a des gens qui doivent bouffer, il y a des gens qui doivent travailler. Donc, à un moment donné, tu dois accepter certaines choses. Mais dans la mesure du possible, si tu es assez proactif et si tu es assez un peu précoce, enfin, préventif, mais si tu travailles un petit peu en prévention, en prévision, logiquement, tu es quand même censé trouver des boîtes qui sont censées être dans ton ADN ou dans ta culture fit. Et je pense que c'est primordial. C'est vraiment primordial. Et de temps en temps, à partir du moment où ton salaire est convenable, hein, à partir du moment où tu as de quoi vivre, hein, bien évidemment, la culture, pour moi, l'ADN doit passer avant tout le reste. Parce que même si tu as une boîte qui te paye mieux, ta culture et ton ADN, en fait, c'est ce qui va faire que tu vas te lever le matin avec plaisir. Il y a un moment donné, l'argent, ça ne suffit pas. Non. C'est nécessaire pour vivre correctement, mais ce n'est pas le moteur de la vie. Ce n'est pas la vérité. Sauf si, on est bien d'accord, hein, je remets toujours le bémol, à condition d'en avoir suffisamment pour vivre. On est complètement
d'accord. Oui, bien sûr. Là, on est déjà sur. On parle d'une personne qui n'est pas en danger professionnellement, mais qui veut s'épanouir. Quoi.
Exactement. Parce qu'on a toujours tendance, tu sais, on a toujours cette dichotomie, les gens te disent ouais, mais tu comprends. On le sait. On parle d'un niveau qui est, on va dire, un niveau step 2. Quoi. Bien évidemment que la première phase, c'est d'avoir de quoi bouffer. Et c'est aussi une des problématiques des gens au quotidien aujourd'hui. Mais quand tu as atteint ce niveau de salaire qui est convenable, après, vraiment, il faut s'épanouir. Parce que c'est ça qui va faire que tu vas kiffer dans la vie. Et c'est exactement la même chose côté entreprise, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut donner suffisamment à ses collaborateurs, suffisamment d'argent pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et après, il faut bosser tout le reste. Parce que le salaire ne fera pas tout.
Mais de toute façon, ce step 2 dont tu parles, il emmène au step 1. Moi, j'ai un nombre de clients colossal qui étaient dans des situations qui étaient bonnes. Vu que ça ne fit plus, ils se barrent et ils lâchent tout. Et parfois, pour être dans des situations réellement précaires, malgré des diplômes, malgré des ci, des ça, des CV super, deux ou trois difficultés rencontrées sur le chemin, ça peut nous emmener vraiment dans des quasi impasses où on finit par même se demander ce qui nous fera bouffer à la fin du mois, quoi. Donc,
qu'on
se rejoigne. Et là-dessus, si on illustrait juste un peu ce que tu dis, même si on a le timer et qu'on doit pas traîner, mais pour identifier des cultures fit, je sais pas, j'imagine t'as déjà des boîtes américaines, des boîtes européennes, des boîtes françaises, c'est pas la même histoire. T'as les boîtes cool remote, t'as des boîtes où on sait qu'on sera jamais viré, d'autres où on sait qu'on sera bien payé. Comment tu vois le truc, toi, pour identifier ça, la culture d'une boîte?
C'est pas dur, tu vois, et ça va être de plus en plus facile dans les mois à venir. Il faut aller voir ce que la boîte dit, bien évidemment, parce que ça reste quand même une base de réflexion. Donc, il faut aller se renseigner sur elle, sur ce qu'elle fait et tout, mais surtout il faut aller se renseigner sur les collaborateurs. Et ce qui était un petit peu plus opaque il y a encore quelques temps, Depuis quelques mois, années, LinkedIn a permis justement cet aspect-là. Glassdoor existe, c'est bien, les sites de notation, c'est bien, mais comme on le sait, t'as deux options, tu vois, sur ces sites-là. C'est généralement, c'est comme les TripAdvisor et compagnie, c'est à 90% ceux qui sont pas contents qui vont aller donner leur avis, et ceux qui le sont le font pas. Ou ceux qui vont donner leur avis positif, généralement, c'est des gens qui ont été poussés par la boîte pour donner leur avis positif. Donc, OK, c'est de la même manière que tu vas regarder l'ADN de l'entreprise dans sa marque employeur globale, tu peux aller regarder ça, mais il faut savoir faire un équilibre entre les deux. Mais ce qui marche aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de collaboratrices, collaborateurs qui prennent la parole, en fait, au sein de ces entreprises. Le travail de l'employé advocacy que les gens poussent et que les entreprises poussent. Alors oui, on peut dire que c'est un petit peu policé. C'est pas complètement faux, mais les gens, principalement, conservent quand même une indépendance dans leurs propos. Donc, aller se renseigner auprès des autres collaborateurs, voir comment ils vivent, voir leur quotidien, voir ce qu'ils proposent, voir ce qu'ils prônent, voir ce qu'ils avancent, ça te permet quand même pas mal de te projeter et ouais, de voir un petit peu le culture fit de l'entreprise, clairement.
De toute façon, tu prends un café avec n'importe qui dans n'importe quelle boîte, il te répondra la même chose que ses collègues sur qu'est-ce qui est cool et qu'est-ce qui est pas cool dans la boîte.
95% de chances que ça soit le cas.
Yeah, donc, premier point. Je t'ai coupé au
bon petit garage. Vas-y.
Vérifier si dans ta, ouais, ou vérifier si ta boîte, t'es pas juste, t'as pas, ouais, si t'es dans une boîte qui avec qui tu fites, quoi, déjà, du coup.
Ouais, exactement.
Côté collaborateur. OK.
Ouais. Deuxième point, c'est savoir d'où on part. Quand tu veux travailler ta mobilité interne, que ça soit, encore une fois, côté entreprise ou côté collaborateur, il faut savoir d'où tu pars. Quand t'es côté entreprise, en gros, tu fais ce qu'on appelle, tu fais deux choses. Tu fais référentiel métier. C'est-à-dire que tu crées tout un référentiel autour de tes métiers pour connaître l'ensemble des compétences qui composent chaque métier, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu fais une cartographie de ces métiers-là. Donc, ça te permet d'avoir une vue globale d'ensemble d'où ton entreprise part et d'où ton entreprise. C'est hyper important. Okay. Parce que comment tu veux travailler de la mobilité si tu sais pas d'où tu viens? Tu vois, c'est impossible. C'est un petit peu comme si tu disais, je veux aller ici, tu vois, je veux aller à tel endroit. OK, très bien, tu veux aller à tel endroit, mais tu pars d'où déjà?
Oui.
Écoute, je sais pas. Donc, si tu veux aller à Paris, mais tu sais pas d'où tu pars, si tu sais pas si tu pars de Bordeaux, si tu pars de Marseille, si tu pars de Lyon, bah, ça va être problématique parce que tu vas pas prendre la même route, le même chemin. Donc, tu pourras pas savoir. Donc, il faut toujours savoir d'où tu pars. Okay. Côté collaborateur, c'est exactement pareil. Tu veux travailler ta mobilité interne, tu te poses des questions et tout. OK. Mais sache déjà d'où tu pars toi-même en tant que collaborateur. Qu'est-ce que tu as comme compétence? Qu'est-ce que tu as comme expérience? Mais réellement, hein, vraiment, il faut se poser. Parce que souvent, tu as tendance à dire « oui, moi, je sais faire ci, ça, ça ». Mais si jamais tu vas creuser un petit peu, tu fais une sorte de découverte commerciale avec une personne, tu vas dire « mais est-ce que tu as fait ça dans ta vie? Est-ce que tu as fait ça ?» Tu dis « tu sais faire ça, mais tu l'as fait pendant combien de temps? Est-ce que ça fait longtemps que tu l'as fait? Est-ce que ça fait pas longtemps que tu l'as fait? Est-ce que tu es encore au fait du sujet ?» Est-ce que... Pose-toi toutes tes questions pour avoir ton team mapping de compétences à toi propre et dur. Tu vois, c'est un peu comme, je sais pas de quelle génération tu es, mais en gros… Je sais pas si t'as suivi des Friends ou quoi que ce soit, la série.
Ouais, vite fait. Il y a
un épisode de Friends dans lequel, en fait, Joey a son CV d'acteur et il a toute une liste de ce qu'il est censé savoir faire derrière. Et au final, au bout d'un moment, bah, il barre, il coche des trucs parce qu'il sait pas tout faire. Il se recentre sur l'essentiel. Et oui, effectivement, il faut te recentrer sur l'essentiel. Pourquoi? Parce que ça te permettra de savoir où est-ce que tu peux aller. C'est toujours pareil. Tu peux pas savoir où tu peux aller si jamais tu sais pas d'où tu pars. Et ça veut pas dire que tu vas te voir te bloquer, ça ne veut pas dire que tu vas devoir te mettre des barrières, ça veut simplement dire que tu verras le chemin qu'il y a à parcourir. Tout le monde peut tout faire, peut aller où il veut. Évidemment, si jamais demain tu me dis, Alban, écoute, moi j'aimerais bien être astronaute dans la vie, je te dis, bon, écoute, il est un peu tard pour être astronaute là, ça va être compliqué maintenant, tu vois. C'est pas que t'es vieux, mais forcément, avec les études que t'as à faire et compagnie, ça va devenir compliqué. Mais en dehors de choses un petit peu extrêmes comme ça, tout le monde est pratiquement capable de faire ce qu'il veut, à condition de savoir comment y aller. Et ben c'est pareil pour les entreprises, tu vois. Les entreprises sont complètement capables d'aller là où elles veulent à partir de ce moment où elles savent d'où elles partent et le chemin qu'il y a à parcourir. Le parallèle est vraiment conséquent. Et donc du coup, c'est comment dire, c'est vraiment de savoir d'où on part. Ça c'est le premier point.
Et donc ensuite, ça sous-entend une petite introspection sur les compétences qu'on a en gros et sur les appétences aussi qu'on. Enfin, sur d'où je pars en termes d'intérêt, de ce qui m'anime un peu, de ce que j'aime bien faire, etc. Quoi.
En fait, tu as la chemise ouvrière entre le point 2 et le point 3. Le point 3, c'est savoir où tu veux aller. Tu vois.
Okay.
Savoir où tu veux aller, c'est hyper important de savoir où tu veux aller. Quand tu es dans une entreprise, tu veux travailler de la mobilité interne, c'est bien. C'est bien de travailler ta mobilité interne. Mais au final, si tu ne sais pas où tu veux aller, bah, ça sera problématique parce que du coup, tu vas pas forcément prendre les bonnes personnes pour les bonnes choses. Tu vas peut-être te dire, bah, tiens, telle personne, je vais la faire passer de tel job à tel job. Mais ça se trouve, ce job-là, demain ou dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, demandera d'autres compétences. Et peut-être que la personne que tu as fait passer aujourd'hui de ce job-là à ce job-là, bah, elle sera peut-être pas du tout faite pour ce job-là de dans 5 ans. Elle sera faite pour ce job-là de 2024, pas de 2029. Et donc, du coup, ça veut dire que tu n'auras aucune prévision. Pourquoi? Parce que tu ne sauras pas exactement où tu vas aller. Donc, tu auras fait la mauvaise mobilité. Tu vois. Et ouais. C'est problématique et pour la personne, parce que ça va être déceptif à terme, et pour l'entreprise, parce que tu vas avoir besoin de refaire de la mobilité. Ouais. Donc, il faut toujours savoir où tu vas aller. Une entreprise, là, c'est un petit peu ce qu'on appelle le strategic workforce planning. Tu vois. Une base du strategic workforce planning, c'est le fait de se dire, je sais où je suis, je veux savoir où je vais aller. Une entreprise, c'est plus d'un point de vue business au départ. Elle se dit d'un point de vue business, je vais être là dans 2, 3, 5, 10 ans. Et si jamais je veux être là dans 2, 3, 5, 10 ans, quelles sont les compétences humaines que j'ai besoin d'avoir pour être là dans 2, 3, 5, 10 ans? Et de fait, tu fais tout ton parcours au milieu de tout ça. Tu sais d'où tu pars, tu sais où tu vas, tu n'as plus qu'à créer les chemins entre les deux. Côté collaborateur, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut savoir où tu veux aller. Mais où tu veux aller d'un point de vue, et là je rejoins ce que tu disais, je prends la perche que tu as tendue, mais c'est là où tu veux aller d'un point de vue professionnel, d'un point de vue humain, d'un point de vue émotionnel, de tous les points de vue, il faut que tu saches où tu veux aller. Et c'est là, en fait, où tu peux faire donc ce que tu as déjà fait apparemment dans un podcast, tu peux faire ton Ikigai. Pourquoi? Parce que ton Ikigai répond à plusieurs questions qui est tu dois trouver ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es compétent, ce pourquoi le monde pourrait te payer, et j'ai plus le dernier, c'est... Enfin, je sais plus, j'ai un trou de mémoire.
C'est un trou de mémoire.
Donc, en gros, tu as ces quatre aspects-là. Et l'ikigai correspond réellement à savoir d'où tu pars et savoir où tu veux aller. C'est vraiment ça. Et donc, du coup, il te dit où est-ce que tu peux te centrer, tu vois. Donc ça, il te dit où est-ce que tu peux te centrer. Il te donne pas le chemin à parcourir, mais il te dit où est-ce que tu peux aller par rapport à ce que tu représentes. Et ça, pour un collaborateur, c'est primordial. C'est-à-dire que tu ne peux pas vouloir de la mobilité interne ou vouloir envisager des parcours de carrière ou une vie si tu ne connais pas réellement ton zénith, en fait. Ton zénith ouais. De parcours de vie, tu vois, c'est pas possible.
Et là, tu touches un point chaud parce que une grande partie d'entre nous n'est pas en mesure de définir où elle va. Tu vois, que tu me disais que tu avais envisagé de veto quand tu étais gamin, ouais. Là, tu fais quelque chose qui n'a rien à voir et tu n'aurais pas été en mesure de dire ça il y a 30 ans. Et c'était justement l'objet de notre échange avec Gladys qui nous a mis en contact, qui amène une méthode, juste une petite digression parce que tu vois. Je vois le point, mais il n'est pas toujours applicable, je pense. Il y a vraiment des gens qui fonctionnent à l'opportunité. Et c'est, quand c'est comme ça, ce que disait Gladys, ça rejoint ce que tu disais. En gros, est-ce que c'est une histoire de lifestyle, de REM? Quand tu ne sais pas où tu vas en termes de compétences et en termes de projet pro, tu peux savoir où tu vas financièrement, géographiquement, en termes de lifestyle, en termes de famille. Et c'est déjà ça, en fait. Ça peut être de construire là-dessus, quoi.
Tu as plusieurs étapes à construire. Après, l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un endroit à un instant T sur lequel tu peux te sentir bien, que tu peux pas te dévier du chemin. C'est pas forcément, tu vois, incohérent, tu vois. Il y a pas des choses qui vont pas forcément. Tu vois, c'est une globalité. L'ikigai, t'es quand même sur un concept un petit peu plus philosophique que factuel, tu vois. Et ce concept philosophique, il est important parce que du coup, tu peux te diriger dans plein de chemins différents au milieu de tout ça. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est assez sympa. Si on prend mon exemple, moi, j'ai pratiquement toujours été, j'ai la chance, j'ai pratiquement toujours été au centre de mon ikigai. Pourquoi? Peut-être parce que je me suis jamais menti à moi-même. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, écoute, tu sais pas tout faire, mais il y a des choses qui t'intéressent. Donc, va les explorer, va les exploiter et tu vas voir si tu te sens bien à l'intérieur. Et si ça match, tu vois, s'il y a ce match, justement, de te dire, je suis suffisamment performant pour satisfaire les personnes qui m'emploient et je suis suffisamment heureux pour pouvoir en fait me lever le matin en étant content de faire ce que je fais. Et donc de fait, même si j'ai pris plein de chemins différents, mais à chaque fois en fait, chaque étape, tu vois, j'étais pratiquement au centre de mon ikigai, tu vois, clairement. Après, forcément, il évolue parce que tes périodes de vie évoluent, tu vois. C'est mon point central aujourd'hui, il est de toute façon pas le même que ce qu'il était quand j'avais 25 ans, que j'avais pas d'enfant, que j'avais rien et tout, ouais. Tu vois. Donc forcément il évolue. Et je pense que la vraie force que tu peux avoir dans ton parcours de vie, c'est de jamais se mentir, tu vois, de toujours être honnête envers soi-même. On parlait d'être honnête envers les entreprises, mais il faut être avant tout être honnête envers soi-même et ne pas se mentir. Et surtout accepter qu'on puisse changer, tu vois. accepter qu'on puisse changer, accepter qu'on puisse être soi-même et différent des autres. C'est juste ça. Ça veut juste dire, voilà, t'es pas comme tout le monde. Et c'est pas grave de pas être comme tout le monde. La Terre, la société a besoin de tout le monde. Elle a besoin de toutes les personnes, de toutes les sensibilités, de tous les points de vue, de toutes ces choses-là. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris. J'ai 25 ans de rugby. C'est quelque chose que j'ai appris dans le rugby. On a besoin de tout le monde. De tout ce qui existe sur cette planète, on en a besoin. Donc, c'est-à-dire qu'il faut juste être conscient de ce qu'on est pour pouvoir trouver sa place plus simplement. Mais si on se ment et qu'on veut trouver une place qui n'est pas la nôtre, c'est là où on va se rendre un petit peu malheureux et on aura du mal à rentrer au centre de celui qui gagne.
Bah, on n'a pas encore les deux derniers leviers, mais sur ce troisième-là, moi, je vois vraiment un point de tension qui est que la quasi-totalité des gens qui bossent en entreprise ne diront pas la vérité à leur N+1 ou leur DRH de peur d'être mis au placard. Et c'est une énorme connerie, je pense. On a fait un épisode là-dessus il y a bien longtemps avec un expert du sujet qui s'appelle « Peut-on dire la vérité ou doit-on dire la vérité en entreprise ?» Bon, il a porté un avis plus mesuré que le mien. Moi, je pense que ne pas dire les choses, c'était tout aussi problématique que de ne pas être honnête avec soi-même, quoi. Parce qu'on n'attire plus rien de bon à soi, en fait.
T'as entièrement raison. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sans le penser, tu vois, tu fais une avancée sur le quatrième point. Le quatrième point, c'est faire en sorte, tu vois, pour moi, que les collaborateurs soient proactifs et que, en gros, il y a un vrai échange entre les deux. Et ce que tu dis, c'est une réalité, mais c'est autant un problème du côté collab que du côté entreprise. C'est-à-dire que si les collaborateurs ressentent ça, c'est-à-dire que l'entreprise leur fait pas transparaître qu'ils peuvent être eux-mêmes, ils peuvent être qui ils sont.
Bien sûr.
Mais d'un autre côté, les candidats et les collaborateurs l'entretiennent en disant OK, je vais me cacher. Il y a un moment donné, il faut pas se cacher. T'es qui tu es. Si jamais l'entreprise ne te convient pas, si jamais ça marche pas, bah tu te casses. Sincèrement, pour être honnête, franchement, en dehors de personnes qui galèrent, aujourd'hui, on est dans un pays dans lequel si tu veux bosser, tu bosses. D'accord. Si tu veux trouver du job, tu en trouves. Après, il faut de temps en temps pas être forcément très regardant sur certaines choses quand tu as besoin de bouffer. C'est comme ça. Moi, j'ai fait à peu près tous les jobs du monde. Quand j'en avais besoin, j'ai fait nettoyage, j'ai fait déménagement, j'ai fait veilleur de nuit, j'ai fait du bâtiment, j'ai fait tout ce qui était possible et imaginable. Tu vois, il y a un moment donné, si tu veux bosser, tu bosses. Tu vois, clairement, tu peux le faire. On enlève quelques extrêmes, on enlève des problématiques de séniorité qui sont encore catastrophiques en France, on enlève des problématiques de handicap, on enlève des choses qui existent, hein, qu'on ne nommait pas, mais on va dire pour la grande majeure partie la population active, si tu veux bosser, tu bosses. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment donné, il faut savoir où est-ce que tu te situes. Et le fait de mentir ou d'omettre certaines choses, bah, ça contribue à ça. Alors, je pense perso que c'est à l'entreprise de faire plus d'effort que le collaborateur. Le collaborateur contribue justement à entretenir ça. Par contre, si l'entreprise, elle met en place une vraie politique de proactivité, elle met en place une vraie politique de mobilité interne, où elle dit aux gens, venez nous expliquer tout ce que vous êtes. Pas le job que vous faites, mais tout ce que vous êtes. Vos expériences passées, vos expériences transverses, vos expériences extra-professionnelles. Venez nous expliquer complètement qui vous êtes. Parce que peut-être que vous êtes au bon poste, ça peut être très cool, mais peut-être que vous n'êtes pas forcément au meilleur poste dans l'entreprise parce qu'il y a peut-être quelque chose qui peut être encore mieux pour vous. Mais on ne le sait pas parce qu'on vous a recruté pour tel poste. Et si vous nous expliquez qui vous êtes, eh ben peut-être qu'on pourra vous trouver mieux. S'il y a des entreprises qui font ça et qui l'appliquent, ben là, forcément, tu vas délier les langues. Et là, forcément, tu vas faire en sorte que les gens ne mentiront plus ou ne mettront plus et sont plutôt complètement open et complètement ouverts. Et ça amènera de la proactivité, ça amènera une ouverture d'esprit très grande de la part des collaborateurs. Donc, pour moi, c'est le jeu de l'entreprise. Mais il y a aussi un rôle du collaborateur et de la collaboratrice, tu vois, de ne pas l'entretenir ou de l'entretenir dans le bon sens.
Ce quatrième point, c'est quoi? C'est de la transparence? C'est de s'exprimer? C'est quoi?
Ouvrir la transparence pour la proactivité. C'est-à-dire expliquer au collaborateur qu'il faut qu'il explique parce qu'il y a des chemins qui peuvent être ouverts, qui peuvent être différents. Et donc, ouvrir ces chemins, clairement, en fait, hein, c'est ça. Pour moi, c'est un échange global, c'est vraiment le côté ouvrir la proactivité. Ce que je dis aux collaborateurs, c'est faire en sorte de lui donner en main les billes pour qu'il puisse être acteur de son parcours de carrière, qu'il puisse se poser lui-même les bonnes questions. Aujourd'hui, les entreprises, souvent, tu vois, t'as un côté un peu opaque, c'est-à-dire que quand tu parles de mobilité interne ou quoi, c'est souvent, ça passe souvent par les managers, par les RH, des choses comme ça, mais c'est entre guillemets un petit peu proposé aux collab. Là, il faut renverser la table. Il faut pas enlever cette partie-là, tu peux la garder, mais il faut la renverser. Il faut dire au collab, toi aussi, tu peux être acteur. Je te donne les outils pour l'être. Je te donne les moyens. Je te fais ta cartographie. Je te donne les moyens de voir quelles sont les compétences nécessaires pour tous les jobs qui existent dans la boîte. Je te les montre. Ça te permet de te projeter. Mais ça te permet d'essayer.
Du coup, on en revient un peu à notre question du plafond de verre hein, qu'on a tous. Comment tu peux devenir un peu plus omniscient, un peu plus conscient sur la cartographie des jobs d'une boîte? C'est un truc public? C'est une info je sais pas, ça existe quelque part, matériellement?
Ça amène le point 5, c'est qu'il faut s'outiller. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on est à une époque qui bouge. Hein. On est à une époque où le paradigme du monde du travail change énormément. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un nombre d'outils no-code, d'outils d'intelligence artificielle, comme Hawk, tu vois, que moi je représente, mais il y en a d'autres. Hein. On n'est pas là pour faire une publicité, hein, mais tu vois, c'est clairement cet outillage-là, il est ultra important parce que c'est celui qui va permettre d'avoir cette exhaustivité. Si je te prends l'exemple de Hawk, nous, on propose aux collaborateurs un espace dans lequel il a sa propre cartographie des compétences et il connaît l'ensemble des jobs qui sont proches ou plus éloignés, mais desquels il pourrait, enfin, sur lesquels il pourrait se projeter en termes de parcours de carrière et les différents chemins qu'il y a pour pouvoir arriver à ça. Donc, le collaborateur peut arriver et puis peut jouer avec ça, tu vois. Il peut se dire, ah bah, tiens, finalement, je suis sales, mais ah, tiens, j'ai quand même pas mal de compétences par rapport au marketing. Ah, tiens, j'ai pas mal de compétences par rapport au RH et tout. Alors, je peux pas passer de sales à RH tout de suite, mais j'ai des compétences et je vois qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse et qu'est-ce que je fasse évoluer comme compétence pour pouvoir arriver à ça. Donc, ça me donne des idées. Et le fait de donner des idées, ça ouvre le champ des possibles. Et tout le problème, tout le principe, en fait, est d'ouvrir le champ des possibles. Si tu expliques aux gens que c'est possible, à partir de ce moment-là, ça leur donne de l'énergie pour pouvoir essayer. Si dès le départ, en fait, tu ne leur montres pas que c'est possible, ça ne marche pas, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, si tu mets une porte devant un chemin que quelqu'un doit prendre, généralement, il va voir un obstacle. Même s'il n'y a pas de clé, il n'y a rien. La porte, elle peut s'ouvrir sans aucun problème, mais il va y avoir un obstacle. Si justement, tu lui mets la porte ouverte directement, il va voir un chemin, tu vois ce que je veux dire? Alors que pourtant, c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Il n'y a pas plus de travail à faire. C'est juste que tu as une barrière physique qui n'est pas une réelle barrière, mais qui est une barrière visuelle, en fait, qui va bloquer les personnes. Et ça, c'est problématique. Et donc, du coup, si une entreprise permet de montrer les chemins, ben, les gens vont se dire, ah bah ouais, trop cool, c'est possible, quoi, tu vois. Et c'est ça qu'il faut faire. Et pour ça, aujourd'hui, ben, c'est s'outiller qui est prioritaire, quoi.
Et du coup, côté collaborateur, ça veut dire, comme la boîte va pas venir vers toi avec les chemins, c'est-à-dire, être curieux et essayer de se faire une cartographie de ce qui existe dans la boîte, quoi, dans le groupe, dans la boîte et autres, quoi.
Alors, si la boîte te le fait, t'outille pas, enfin, si t'as une boîte qui est pas outillée, ouais, c'est plutôt dans ce sens-là. Là, ça devient un peu plus complexe. Et donc, du coup, à ce moment-là, il faut plutôt prendre le côté inverse, c'est-à-dire essayer vraiment de trouver son ikigai pour ne pas se perdre et essayer de voir les quelques voies qui seraient intéressantes et là, aller piocher un petit peu, tu vois. Tu peux pas faire ça de manière exhaustive. Sinon, ça serait un temps infini, tu vois, qui serait très problématique. Soit tu es outillé et tu peux le faire de manière exhaustive, soit tu l'es pas. Et à ce moment-là, tu ouvres une porte après une autre. Tu prends un chemin après un autre. Et là, voilà, t'avances.
Super intéressant. Et une fois de plus, on est complémentaires. Toi, tu vas outiller la boîte pour qu'elle puisse faire ce travail-là. Et moi, je vais outiller le collaborateur pour qu'il puisse remonter, lui, vers la boîte. Peut-être une dernière question. C'est cool, on est efficace. On est en moins de 45 minutes. Concrètement, la personne qui nous écoute, qui se dit « Ok, j'envisagerais bien, au fond, d'aller creuser un peu plus le répertoire des compétences, des boulots, de tout ce qui existe dans ma boîte. Je passerais bien à la seconde là-dessus. Juste le trigger, tu vois, le premier pas, il peut être assez impressionnant. Tu veux dire, tu vas pas pousser la porte du bureau de ton RH en disant « Au fait, tu as 2 minutes, j'envisage une mobilité interne. » C'est un peu chaud d'arriver comme ça de but en blanc.
Pourquoi ?
Même avec ton manager. Je constate juste, retour d'expérience. C'est plus un constat qu'une croyance. C'est-à-dire que il y a pas mal de gens qui vont buter, tout comme sur la transparence. On va se dire, bah attends, je peux quand même pas tout dire à mon boss, sinon je vais être placardisé, je vais me faire virer. De la même façon, t'as pas grand monde qui se dit, ah bah trop cool, je vais aller parler hyper à la cool de mes envies de mobilité. Il y a un frein. Je sais pas lequel, mais il y en a un ou plusieurs. Quel serait ton conseil pour justement, pour baisser un peu la taille de la marche, tu vois.
Alors, pour moi, le premier conseil, ça serait peut-être, à la limite, si tu veux baisser la taille de la marche, c'est ce qu'il faudrait dire, c'est aller voir, à la limite, ton collaborateur, son manager ou son RH, en disant, j'ai envie de développer mes compétences. Voilà. Tu dis ça. J'ai envie de développer mes compétences. Comme ça, tu vas commencer à mettre une petite graine dans la tête de ton manager et ton RH. C'est hyper bien vu de dire j'ai envie de développer mes compétences parce que ça veut dire que tu t'impliques dans la boîte, que tu as envie d'avancer, que tu as envie de progresser avec elle. Donc, c'est hyper bien vu. Après, là, il faudra de toute façon, après, à un moment donné, c'est un bouger et changer de job, te dire, bon, bah oui, mais j'ai envie de développer mes compétences, mais peut-être que j'ai envie de développer peut-être un peu plus celle-ci ou celle-ci. Tu vas peut-être orienter après le discours. Et ça, ce sera ton travail. Mais moi, je reviens à ce que tu disais au départ. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut enfoncer des portes ouvertes, quoi, tu vois, pour pouvoir avancer. Et là, on parle d'enfoncer des portes ouvertes. On parle pas de transpercer des murs, tu vois. On parle d'enfoncer des portes ouvertes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si jamais il y a un dicton qui dit si tu ne demandes pas, tu n'as pas, quoi, tu vois. Donc, vas-y, demande. Et dans tous les cas, normalement, un entrepreneur va se dire, moi, je suis content qu'un collaborateur vienne me voir pour me dire qu'il a envie de mobilité interne. Ça veut dire qu'il se projette dans la boîte. C'est ce qu'il y a de primordial. Parce que si tu le fais pas, il y a un moment donné où tu vas passer sur un mode, ce qu'on appelle quiet quitting. C'est-à-dire que tu vas dire, j'aime plus trop mon job, j'avance pas, donc je fais mon boulot juste comme ça. Et puis, boum, à un moment donné, tu vas te barrer, quoi, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tout ce temps-là pour toi, en tant que collaborateur, il va pas être bon. Pour l'entreprise, il va pas être bon, donc ça va pas être bon. Oui, par contre, je suis d'accord. Tu t'exposes potentiellement à un retour qui sera un retour négatif. Mais on revient au premier point. Si tu t'exposes à un retour qui est négatif, sur une boîte parce que tu as évoqué une mobilité interne, donc c'est-à-dire que tu évoquais le fait de te projeter dans la boîte différemment, c'est-à-dire que peut-être que la boîte, elle n'est pas dans ton ADN et dans ta culture fit. Peut-être qu'il y a un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Donc oui, ça fait peur, mais il faut y aller. Ouais. Et on a trop tendance, en fait, à être bloqué par nos peurs quand on est adulte. Repense aux enfants, à l'enfant que tu étais ou quoi que ce soit. Moi, j'ai une petite fille, elle a 5 ans. Tu te rends compte, les enfants, et quand ils se lancent pour marcher, c'est un truc de ouf. Ils se lancent pour marcher, ils sont à deux doigts de tomber, de se fracasser et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont, ils ont pas de crainte, ils y vont comme ça, feu. Mais pourquoi on se met des barrières? Pourquoi on se met des barrières?
Ça, c'est un grand sujet. Il y a 115 épisodes où on essaie de comprendre derrière nous. Mais d'ailleurs, à propos des enfants, c'est tout comme ils ont pas peur de tomber, de se prendre des coups, et ils se relèvent. Pareil sur le réseautage. On se construit jamais seul, on a besoin d'échanger, de rencontrer pour avancer professionnellement, en interne et en externe, et on n'ose pas. Alors, tu prends un gamin de 5 ans, il va voir tout le monde. Il va voir le chien, il se balade, la mamie, le machin. C'est un électron libre. Il n'a pas tous ces filtres qu'on s'est mis, nous.
C'est exactement ça.
Écoute, merci. Merci, Nicolas, pour tous ces partages. C'est riche. Ce que j'en conclus, un peu comme ça au vol, c'est qu'on a tendance à considérer ce mot mobilité interne comme je suis dans une impasse et je vais peut-être me recycler en interne. Et en fait, toi, tu l'amènes sous une évolution positive permanente de développement de compétences, qui est, je pense, la vraie bonne définition. Mais je suis pas sûr que ce soit la définition qu'on ait par principe dans notre tête et qu'on envisage comme ça. Et comme tu dis, je pense qu'on oublie d'enfoncer des portes ouvertes parfois. On oublie même juste de traverser parce que la porte est ouverte.
C'est ça.
Super intéressant. Le call to action pour finir que tu voulais nous proposer, le petit déclenchement pour quelqu'un qui nous écoute et à qui on pourrait proposer quelque chose. Pour être honnête, j'ai oublié ce qu'on s'était dit. C'était pas l'introspection.
On s'est dit fais ton ikigai. Voilà, sois introspectif, fais ton ikigai. C'est la base, c'est ce qui te permet de savoir d'où tu pars et de savoir où tu veux aller. C'est ultra, ultra, ultra important. Parce qu'en fait, on a toujours tendance en fait à idéaliser ce qu'on veut, mais on l'idéalise de mauvaise manière, tu vois. C'est-à-dire que c'est notre inconscient qui va idéaliser certaines choses. Alors qu'en fait, concrètement, on aura peut-être besoin d'autres choses. Et ça revient à ce qu'on disait aussi à un moment donné. L'ikigai, normalement, si tu le fais correctement, permet de ne pas te mentir. Parce que souvent, on se ment. Ça sert à rien de se mentir. Il faut accepter d'être qui on est. Et de toute façon, la société, le monde a besoin de tout le monde. C'est le principe de la nature, hein. De toute façon, tu sais très bien comment c'est. La nature a besoin de tout ce qui se passe. Il y a aucun élément dans cette planète, sur cette planète, il n'y a aucun élément vivant qui ne sert à rien. C'est-à-dire que tous les éléments vivants servent à quelque chose. C'est exactement la même chose dans notre société.
Et ça, je crois que c'est super important ce que tu dis. C'est n'ayons pas honte de nos traits de personnalité. Ils sont précieux quelque part. Et l'enjeu, c'est pas de se gommer, c'est de trouver ce quelque part, quoi.
Exactement.
Merci pour cette conclusion. J'affiche juste ici le nom de l'épisode sur lequel on a travaillé avec Amandine Bussa sur un Ikigai qu'on a fait en direct. Qui était plutôt chouette comme moment et qui peut permettre, si tu nous écoutes et que tu veux vivre un Ikigai et que tu peux évidemment aller voir un coach, un expert ou autre qui te fera ça, et puis tu peux aussi essayer en ligne, en direct, en podcast de le faire. C'était il y a quelques mois déjà. Nicolas, merci encore pour ton temps.
Merci à toi pour l'invitation.
Je sais que tu es bien occupé, donc à vous les studios, on va raccrocher ici si ça te va.
Merci beaucoup, c'était très cool.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.